Figaro Radio.
Le Buzz TV.
Sarah Lecoeuvre et Nicolas Voller.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le Buzz TV de TV Magazine. On est ravis de vous accueillir. C'est évidemment la cerise sur le gâteau qu'on vous a réservé avec notre invitée, une journaliste fine observatrice de la vie politique et de l'évolution de la société. Cette intervieweuse pugnace qui cuisine à sa sauce bien à elle nos ministres, députés et autres élus. Des représentants de la République. Elle signe également un livre aussi touchant que bouleversant dont on va parler aujourd'hui. On est ravis de la voir sur ce plateau. Bonjour Sonia Mabrouk.
Bonjour à vous.
Merci d'être Merci. Avec nous. Reconquérir le sacré, c'est le nom de votre cinquième ouvrage qui est publié aux éditions de l'Observatoire. Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet et qu'on en parle, je voudrais savoir comment est né ce livre. Vous racontez que vous êtes converti au sacré, une sorte de voyage intérieur. Expliquez-nous un petit peu comment ça s'est passé, cette conversion. Douloureux.
Non, c'est rarement douloureux, une conversion, au contraire. D'ailleurs, c'est une reconnexion à soi-même. Ouais. Alors, conversion, c'est vrai que le mot a trait au domaine religieux, mais ce n'est pas le cas. Ouais. Moi, je dis souvent que la vraie question qui se pose, ce n'est pas tant, on va quand même rentrer assez rapidement dans le vif du sujet, c'est pas tant si Dieu existe, mais combien de temps l'homme va se prendre pour Dieu. Et pour moi, une conversion au sacré, ou en tout cas, tenter d'approcher ou d'appréhender le sacré, c'est être reconnecté à soi-même, en réalité. Mmh. Et c'est pas, je pense, c'est l'objectif de tout un chacun.
Alors, Sarah avait une question, justement.
Oui, moi, je me demandais à quel moment vous écriviez, parce que votre emploi du temps...
Très pragmatique, vous.
Ah, c'est... Oui,
vous avez des journées de 36 heures ou pas?
Avant qu'on parle, bien Comme sûr, vous. Du livre plus longuement, mais moi, je voulais savoir à quel moment vous écrivez. Je pense que ça peut intéresser aussi.
Alors, c'est souvent la nuit, mais...
Vous écrivez la nuit, comme
vous. Europe 1, c'est mieux, il y a une interview du dimanche, c'est
vrai. Non, mais très sincèrement, là, c'est vraiment... Je pense que c'est la plupart... C'est comme ça pour les auteurs. Moi, c'est vraiment une respiration. Et c'est pas, je ne le dis pas pour montrer que les auteurs, c'est différent. C'est une respiration, c'est une parenthèse dans une journée d'actualité. Ouais. C'est comme si on vous sort du bain, finalement, un bain brûlant comme ça, un chaudron de l'actualité, et on vous pose comme ça, avec un autre temps, un espace-temps qui est différent, avec une musique qui est plus légère, et vous laissez bercer, et vous pouvez passer toute la nuit.
Ah ouais, et on a l'impression, en vous lisant, parfois, vous avez des fulgurances, que vous avez écrit, je ne sais pas, un chapitre, d'un seul coup, d'un seul, c'est vrai, ça?
Oui, c'est vrai.
Ouais,
oui, il
n'y
a pas des fulgurances tous les jours, mais quand il y en a, j'en profite.
Quand il y en a, faut en profiter.
Effectivement. Ouais.
Absolument. On va évidemment parler du livre dans quelques instants, de votre actualité Europe 1 CNews. Sarah, on démarre tout de suite ces infos médias avec le chiffre du jour. C'est 1,1 cette semaine.
Non, c'est 11.
Ah, c'est 11, pardon. Ah, j'avais mis une virgule.
Comme le 11e, et ça, je suis sûre que Sonia Mabrouk, vous le savez, le 11e 49-3 a déclenché par Elisabeth Borne depuis sa prise de fonction à Matignon.
Déjà, oui.
Pour faire passer la réforme des retraites. Alors, évidemment, des milliers de manifestants se sont rassemblés un peu partout en France pour exprimer leur colère, et jusque tard dans la nuit, hein. Sur les chaînes infos, on assistait parfois à des scènes de chaos, comme à Dijon, par exemple, où des mannequins à l'effigie d'Emmanuel Macron, d'Elisabeth Borne ou encore d'Olivier Véran ont été brûlés sur la place publique. Gérald Darmanin a annoncé l'interpellation de 310 personnes, dont 258 à Paris.
En tant qu'observatrice, journaliste, vous redoutez un chaos là, dans le pays, ou est-ce que, selon vous, après tout, les 49-3, beaucoup sont passés
Il y a une vraie situation qui est singulière, qui est totalement incertaine. C'est une profonde crise de la représentation démocratique. Ouais. Et vous savez, c'est vraiment étonnant parce que l'exécutif a perdu sur tous les tableaux. C'est-à-dire, vous avez une population, largement en tous les cas, une opinion publique qui est frustrée. Il y a une profonde frustration et une colère. Vous avez les syndicats qui sont complètement... Il y a une cassure réelle et très profonde aussi. Vous avez tous les groupes... et les partis politiques qui sont sous tension, finalement, on dirait que le président n'a fait plaisir, je ne dis pas que ce n'est pas important, mais qu'au marché financier. D'ailleurs, c'est l'argument qu'il a évoqué. Il a dit, mais si je ne le fais pas, si je ne passe pas ainsi, attention à tout ce qui va se passer. C'est vrai, on a une crise bancaire possiblement qui peut venir des États-Unis, mais enfin, il y a une représentation nationale, il y a une représentation populaire, et tout cela a été mis de côté. Donc, les conséquences vont être très lourdes pour lui. Et mais pas seulement pour lui, malheureusement, pour le pays également.
Mais ce n'était pas qu'ils perdent sur tous les tableaux s'ils avaient laissé le vote, s'ils n'avaient pas fait
49-3 Si on perd au vote, c'est pas seulement le panache, c'est la démocratie. Ouais. On a perdu et donc on se remet autour d'une table et on recommence, c'est la copie à zéro. Je trouve que ça aurait eu vraiment, j'allais dire, tous les atours et tous les arguments positifs et tout l'aboutissement qu'on peut avoir dans une démocratie telle que la nôtre. Mmh.
Et là, il faut s'attendre aujourd'hui à une période comme on a connue avec les gilets jaunes, vous pensez ou...
Alors, ça peut aller jusque-là. Je ne sais pas si vous avez une boule de cristal.
Non, personne ne l'a, hélas.
Mais...
En fait, moi, je pense que vraiment, sincèrement, on parle souvent d'un pays morcelé, archipélisé, fracturé. Là, on dirait qu'on a mis du sel, vous voyez, et que vraiment, on l'a étalé. Moi, c'est ça qui est inquiétant. Mmh. C'est-à-dire, à ce point, c'est même pas un aveuglement, parce qu'on peut comprendre qu'il est en vie. Et c'est normal, c'est un réformateur, il veut porter une réforme. Mais il ne peut pas, ainsi, ne pas tenir compte de ce qui est en train de se passer. Enfin, les conséquences vont être vraiment importantes. Je ne pense pas forcément à court terme. Je pense que ça va être plus du moyen terme et du long terme. Et évidemment, dans les urnes, un peu plus tard. Mmh.
On revient aux médias, Sarah, oui. Et à la télévision, avec cette dernière info concernant Hélène Darroze qui a décroché un nouveau contrat.
Et oui, c'est la chef de Top Chef, vous la connaissez, ouais. Elle va bientôt rejoindre le Royal Mansour, c'est à Marrakech, à partir du printemps prochain. Elle sera en charge d'imaginer la nouvelle offre culinaire mêlant saveur orientale et savoir-faire français. Et elle succède dans ce rôle à Yannick Alénaud. Ce dernier l'a d'ailleurs félicité sur son compte Instagram. Il faut rappeler que Hélène Darroze est déjà à la tête de trois établissements à Paris, ouais. Et un à Londres.
On sait que la cuisine, vous adorez ça. Est-ce que c'est un péché mignon, par exemple, de regarder Top Chef? Est-ce que vous regardez ce genre d'émission? Est-ce que vous autorisez, oui. Entre les livres, les émissions,
non, oui.
Est-ce qu'il y a des émissions un peu plaisir coupable, ah, non, genre Top Chef?
Oui,
ou
oui, j'adore. Ouais. Non, mais vraiment, là, c'est une belle émission qui a remis au goût du jour des métiers qui, ouais. Auparavant, n'étaient pas du tout décriés. Hein, mais enfin, ce sont les beaux métiers du savoir-faire, du savoir-être aussi, hein, parce que ce sont des jeunes gens qui se donnent à fond. Et on a vu une vraie passion pour la cuisine, pour la pâtisserie. Et ça donne des horizons pour les plus jeunes formidables, ceux qui n'y ont pas pensé. On regarde, moi aussi, je me suis dit, pourquoi pas?
C'est un peu trop tard. Ils font les meilleurs pâtissiers amateurs, hein, si vous voulez aller tester sur
N6. Déjà, vous m'avez mis dans la catégorie amateur.
Non, vous n'êtes pas une professionnelle de la pâtisserie, mais en tout cas, ils le font avec les amateurs. On rappelle qu'effectivement, l'émission de pâtisserie cartonne comme le reste. Est-ce qu'il y a d'autres plaisirs coupables dans les émissions que vous regardez comme ça? Est-ce que vous pouvez nous avouer
vous
aujourd'hui ce que
vous
regardez?
Je vais vous faire une liste de mes plaisirs
non,
coupables.
Non, mais comme ça, je vous demande. Vous pouvez pousser la chansonnette sur The Voice, par
ah,
exemple,
oui,
pour
oui,
encourager
oui,
les
oui, candidats. Ça arrive, ouais. Ça arrive. Mais alors, quand j'écris, je mets la télévision, mais je vous avoue que je mets des chaînes, enfin, des plaisirs un peu coupables. Il m'arrive de regarder aussi des chaînes où il y a parfois les crimes, etc. Ouais. Je trouve que parfois, voilà.
Les faits divers, vous aimez bien?
Oui, parfois. Ouais. Mais je regarde tout, mais je suis assez éclectique.
Et vous êtes série aussi à fond, plateforme de streaming?
Non, là, je vous avoue que pour avoir le temps de regarder une série, il faut s'accrocher.
Ah,
mais ça va
bon,
venir.
Hein.
Je vais faire une pause entre ce livre et le prochain.
Oui, pour vos nuits d'insomnie, oui. Ça peut...
C'est le conseil que vous me donnez.
ça nous arrive à tous, oui. Hein, de finir une série à 3h du matin. Reconquérir le sacré, hein, c'est le titre du nouveau livre de Sonia Mabrouk aux éditions de l'Observatoire. On va entrer dans le vif du sujet. Sonia, vous nous avez parlé un petit peu de ce qui vous a amené à écrire ce livre. Je voudrais savoir ce que vous entendiez par définition du sacré, parce qu'évidemment, reconquête, on sait ce que ça veut dire. Le sacré, c'est assez, assez vaste. Dans quel sens vous l'entendez?
Oui, c'est vrai, c'est difficile à appréhender, à approcher. Alors, si vous me demandez une définition personnelle, moi, je dirais que le sacré, c'est le besoin de se reconnecter à ce qui nous précède et à ce qui nous succède, et donc c'est le besoin de se raccrocher à ce qui nous dépasse. Si vous voulez, le sacré, il donne accès à plus grand que soi. Mais une fois qu'on a dit ça, ce n'est pas forcément quelque chose d'obscur, ce n'est pas surnaturel, ce n'est pas quelque chose qu'on ne maîtrise pas.
Ce n'est pas forcément religieux, au sens où vous l'entendez.
Non, le sacré, il est différent du clérical. Ça ne sent pas forcément la sacristie, ce n'est pas la foi. Et d'ailleurs, je dis assez souvent qu'il faudrait que les religions n'aient pas le monopole de l'administration du sacré. Vous savez, le sacré, c'est une définition qui m'est personnelle en tous les cas. Vous avez beau le chasser par la fenêtre de votre esprit, il revient par le cœur, par une petite lucarne de votre cœur. C'est très compliqué. Il n'y a pas de culture, de société sans sacré, mais il commence un petit peu à disparaître. C'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Reconquérir » au sens de reconsidérer le sacré.
C'est une question
stratégique, névralgique, et qui n'a rien d'anachronique aujourd'hui. C'est pas archaïque, c'est pas passéiste, le sacré. C'est une question qui est éminemment moderne, contrairement à ce que beaucoup croient.
Mais oui. dans le sacré, par exemple, est-ce que la Constitution de la Ve République, c'est sacré? Du coup, le 49-3, on a le droit de l'utiliser, après tout.
C'est pas la même chose. Un droit et quelque chose qui est sacré, oui, le 49-3, oui, on a le droit de l'utiliser, c'est un outil constitutionnel. Mais si vous portez un coup de canif à la Constitution, oui, vous portez atteinte à quelque chose qui est sacré, républicain, oui, effectivement. Okay. Parce qu'il y a des interdits, il y a des barrières, il y a des limites autour du sacré. C'est pas un chemin facile, c'est pas un chemin aisé. Il faut accepter qu'il y ait certaines choses auxquelles on ne touche pas, si vous voulez, qui sont un peu immuables.
Et quel est votre constat aujourd'hui que le sacré est passé au second plan, qu'il est ou carrément bafoué?
Bafoué, je ne sais pas. Je pense qu'il est un peu ringardisé et moqué. D'ailleurs, je vois même dans les médias, quand je parle du sacré, il y a certains esquissent un mouvement de recul, comme si c'était devenu quelque chose de malséant, comme si je parlais de quelque chose qui est insaisissable. Mais le sacré, c'est très concret. Moi, je dis, c'est une part irréductible de l'homme. à laquelle les modernes, c'est-à-dire les sociétés modernes, assez nihilistes et individualistes, ont tourné le dos en disant « c'est du passé ». Moi, je ne crois pas. Moi, j'ai le pied entre l'Orient et l'Occident et je vois qu'en Orient, le sacré aujourd'hui est respecté et sanctuarisé. Alors, on va prendre des exemples. Ça peut passer par des lieux sacrés, on va en parler. La nature aussi. La nature, la contemplation de la nature reste sacrée sans avoir besoin de la déifier, évidemment, avec des limites. Et puis, il y a un sacré aussi personnel. Ouais. Chacun son
absolument.
Sacré.
Alors, c'est ça qui est le plus difficile, évidemment. Par exemple, vous dites que la Coupe du Monde de foot, pour vous, ça n'a rien de sacré. Quelqu'un, par exemple, qui est fan de foot
ne
comme
me fâchez
moi,
pas.
Je vais lui dire, mais non, c'est sacré, la Coupe du Monde.
Mais je le suis aussi, je suis fan de foot. D'ailleurs, dans mes plaisirs coupables, mais est-ce un plaisir coupable? J'aurais dû citer
le football, ça va.
Ça dépend pour qui. Mais évidemment que c'est... Enfin, reconnaissez que sacraliser une Coupe du Monde et désacraliser certaines choses dans la République, il y a peut-être un équilibre à trouver.
Mais c'est le choix de chacun, en fait, Sonia. C'est un peu ça.
Mais
quand vous avez 2 milliards de téléspectateurs, vous dites quand même que vous avez un événement qui rassemble les gens.
C'est formidable, que c'est planétaire, que ça fait une émulation et puis certainement beaucoup de chiffres et beaucoup de biens au pays qui gagne. Et tant mieux quand c'est nous. Mais je dis que le sacraliser, c'est-à-dire le porter comme si c'était un événement auquel on ne peut pas toucher.
Oui, ça ne rentre pas dans cette catégorie.
Et parfois, certaines personnalités qu'on ne peut même pas critiquer, non. Non. Le sacré, c'est autre chose. Mais par exemple, on peut avoir son sacré. On parlera, je ne sais pas si votre sacré peut avoir un lien avec votre famille, etc. La seule limite aux conditions, c'est que tout ne devienne pas sacré, parce qu'à la fin, rien ne l'est plus, finalement.
Mmh. Et vous pensez que c'est dû à quoi, cette perte de sacralisation des choses? Je crois que vous référez ça à mai 68.
Oui, il est interdit d'interdire. Ouais. Moi, je pense que ça fait quand même pas mal de dégâts.
Absolument, on s'en souvient,
ce slogan. Voilà, le sacré, c'est en fait des interdits, des barrières et des limites. Et quand vous dites à quelqu'un... Mais non, en fait, rien n'est interdit. Et ce qu'on a oublié, je pense qu'on a perdu de vue dans notre société, c'est que les barrières, les limites, c'est un confort.
Ouais.
Ce n'est pas forcément une contrainte. Dire à quelqu'un « cela, c'est interdit », ce n'est pas un empêchement. Ça ne va pas que créer de la frustration. Au contraire, ça peut créer du confort de connaître quelles sont les règles et quelles sont les choses qui doivent rester et demeurer dans le temps.
Alors, c'est quand même assez fort parce que vous parlez d'affadissement de la civilisation occidentale qui est maintenant soumise à une espèce de chapelet de contrition. C'est quand même des mots assez forts, Sonia.
Écoutez, moi, c'est un constat. Ouais. Je vois deux mots MAUX importants pour notre société, ce que je vais appeler l'économisme. C'est-à-dire, on voit tout à travers le chiffre, par le chiffre.
Oui,
et puis l'hygiénisme. Mais là, essayez de me prouver le contraire, j'en serais très
heureuse.
Oui. C'est-à-dire qu'on sort le risque de notre vie. On veut le zéro risque, tous.
Ouais. Oui, oui.
Autant que nous sommes, nous voulons le zéro risque pour nous, pour nos familles. Et à force de vouloir ça, je suis désolée, mais in fine, dans notre société, on sort un risque qui est majeur, qui est tragique et qui est le risque ultime, c'est celui de la mort. Mmh. Et en Occident, et c'est là la différence que je vois moi avec l'Orient, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit non, mais on ne veut plus, on veut un zéro risque. On croit à une sorte de fable transhumaniste qui nous dit que la mort n'est qu'une panne dans la vie et comme toute panne, elle se répare. Eh bien non. Ça ne se répare pas. Et pardonnez-moi, on l'a vu de manière éclatante et tragique à la fois lors de la crise Covid. On a relégué les plus fragiles et les aînés, et donc les morts dans les EHPAD.
Oui, absolument.
Et on a dit, à mort la mort. Surtout, on ne veut pas la voir. Non. Les rites funéraires sont sacrés. Et il faut les voir, il faut les préserver. C'est encore le cas en Orient.
Est-ce que, par exemple, pour vous, la cancel culture, elle fait partie, elle est symptomatique de cette perte du sacré? On en parle beaucoup de la cancel culture, évidemment.
C'est-à-dire, la cancel culture, si vous voulez, on va définir, c'est certain, moi, ce que je les appelle les déconstructeurs.
Quand vous déboulinez, par exemple, une statue de Churchill en Angleterre, sous prétexte, il y a eu ça.
Parce que
il apparaît comme personnage sacré de la culture anglaise.
Oui, mais alors, vous déboulonnez une statue. Ouais. Après, on peut faire le tri des statues. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut être table rase, que vous dites l'histoire. Finalement, non, c'est pas celle-là, je veux la réécrire. Et tout à l'heure, quand je vous ai défini le sacré, j'ai dit que le sacré, c'est ce besoin de se raccrocher à ce qui nous précède. Eh bien, ce qui nous précède, c'est l'histoire, c'est cette statue. On peut lui opposer un récit aujourd'hui, on peut ne pas être d'accord avec ce qui a été fait. Il y a des personnalités esclavagistes qui ont des statues. Mais enfin, expliquons, débattons, mais n'enlevons pas les statues, parce que gommer, ça ne sert à rien. Personne n'avance sur une table rase, sur quelque chose qui est vide aujourd'hui. On ne peut rien construire, et encore moins le sacré.
Ouais. Et les tags, d'ailleurs, sur l'Arc de Triomphe qu'on avait vu pendant la mobilisation des Gilets jaunes.
Oui,
est-ce que
vrai.
Ça aussi, c'est symptomatique de cette perte du sacré?
Exactement, c'est exactement ça. Et aussi les tags et les inscriptions qu'on avait vues sur le Mont Valérien, c'était il y a aussi plus récent, quelques semaines. Et d'ailleurs, le président Emmanuel Macron, à ce moment-là, je trouve qu'il faut le dire quand même, quand tout est positif, il avait eu des mots très justes. Il avait dit que souiller ce lieu sacré de la République, c'est porter atteinte à ce qui nous divise. Et il a tout dit. Lieu sacré de la République et ce qui nous divise. Et Mont Valérien, qui n'a rien de religieux. Ce n'est pas un...
Non, c'est plutôt militaire.
Voilà. Quand vous êtes sur place, ce n'est pas la religion que vous sentez, c'est la gravité du moment, c'est un haut lieu de notre mémoire. Donc vous voyez que sacré et religieux, c'est différent.
Est-ce qu'on peut vivre aujourd'hui sans sacré, Sonia, ou est-ce que ce serait vivre sans aucun repère, j'allais dire, dans
mais
notre
en
société.
Réalité, même ceux qui disent qu'ils sont très éloignés du sacré et qui ringardisent cette notion, ils vivent avec du sacré.
Ouais, il y a toujours des
impossible.
Petits...
Ouais, il y a toujours, dans toute culture, il y a du sacré. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à force de vouloir, si vous voulez, le faire sortir de nos vies, il n'y a plus rien qui tient. Parce que le sacré dont je parle, c'est un sacré de concorde, rassembleur, un sacré civil, athée. Même férocement athée, mais qui permet, si vous voulez, de réunir tous nos sacrés. Bon, nous sommes trois autour de cette table, chacun a son sacré. Eh bien, autour de ce sacré de concorde, nous pourrions trouver un point commun. Un responsable politique aujourd'hui qui emploie le mot sacré, bonne chance. On dirait qu'il a. C'est un blasphème, c'est très très difficile.
Mais ça passe par quoi? Ça passe par une vraie réflexion intérieure, comme vous l'avez fait vous? Ou est-ce que ça passe par des petites choses de la vie de tous les jours,
j'allais dire? La nature. Écoutez, quand vous prenez un livre, par exemple, d'un auteur que j'admire énormément, et certainement ceux qui nous regardent également, de Sylvain Tesson.
Oui.
Eh bien,
absolument.
Vous voyez, tous les fragments, c'est des flammages de sacré qui sortent de son livre. Ce qu'il dit de la nature, mais c'est ça le sacré de la nature, ne pas la déifier. Mais la contempler, l'observer, en sortir, je veux dire, la quintessence du sublime. Le végétal qui pousse, l'eau qui bénit, le feu qui réchauffe, c'est aussi ça le sacré. Ça peut paraître simple, mais c'est ça, c'est un éloge, une ode à un sacré parfois naturel et simple qui nous appartient.
D'accord. Par exemple, on dit non, je veux pas d'ananas sur ma pizza, c'est sacré. Ça compte aussi, ça, un petit bout.
Je vois votre humour.
Non, c'est sacré la pizza, pas d'ananas.
Je sais que
beaucoup l'aiment, la pizza.
Dans ce cas-là, sacré soirée, etc. On peut.
Ouais, voyez. Vrai.
Non. Le risque. Mais merci de le dire ainsi, parce que le risque, c'est d'arriver à un sacré Canada Dry, sacré light, et finalement, c'est pas le vrai sacré. Non, le vrai sacré, c'est le cœur du réacteur nucléaire.
Et dans votre ouvrage, c'est assez touchant d'ailleurs, ces pages, c'est celles consacrées à votre maman. Vous dites que le sacré vous a aidé à faire le deuil de votre maman partie il y a quelques mois. Sans rentrer dans votre intimité, mais en quoi le sacré vous a aidé dans ce moment-là?
Eh bien, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, moi je n'ai pas connu, j'ai été préservée jusqu'à maintenant de la maladie et je touche du bois et de la mort. Et je ne l'accepte pas, tout simplement, parce que je n'arrivais pas à accepter ce départ. Et c'est à travers des lectures, à travers cette reconnexion au sacré, à ce qui m'a précédé et à ce qui va venir, à ce qui va succéder, parce que la vie n'est qu'un début, que j'ai réussi finalement à m'accrocher à ces fragments de sacré et non pas à laisser le temps passer. C'était l'une des expressions, c'est l'une toujours des expressions que j'ai un peu en aura, parce qu'on vous dit lors d'un deuil, vous allez voir, ça va passer avec le temps. Non, au contraire, moi, le temps, j'avais envie de m'agripper à ça, comme le sacré qui m'a permis de comprendre que ce n'est pas le temps qui passe qui vous permet de faire un deuil, comme on dit, mais au contraire, d'être dans le temps du deuil, d'accepter ce moment tragique, d'accepter la mort, les rites funéraires, de les préserver, de les sanctuariser, eh bien, pour être un peu plus serein.
On va parler un petit peu de télé et de radio, Sonia, évidemment, puisque vous êtes une des figures de CNews. Il y avait une interview récente dans laquelle vous déclarez que les gens qui étaient invités dans vos émissions s'étaient fait entrer l'accusé. Comment vous l'expliquez?
J'ai dit ça?
Oui.
Faites entrer l'accusé.
C'est
comme si c'était fait entrer l'accusé.
Oui,
en gros.
Oui, c'est la remarque que j'ai faite sur
la semaine dernière.
Absolument.
Oui, parce que à chaque fois qu'on est invité, on a toujours les mêmes. Souvent, je ne vais pas faire le procès inverse, les mêmes remarques sur lesquelles nous aurions des interventions sur notre ligne éditoriale. Et moi, je me pose naturellement et sans aucun esprit malin la question, pourquoi on ne pose pas la même question à d'autres? Je ne sais pas, un journaliste d'une autre chaîne d'information, je dis au hasard BFM TV, est-ce qu'on lui demande si M. Patrick Drahi intervient sur sa ligne éditoriale?
C'est vrai, moi.
Non,
mais dites-moi, est-ce que vous poseriez la même question?
Mais pourquoi je n'entends pas? Ce sont les réflexions globales sur le fait que CNews soit plus davantage une chaîne d'opinion. Ce qu'a dit Marc-Olivier Fogiel sur ce plateau, lui, il disait que CNews était une chaîne d'opinion et pas une chaîne d'info.
Mais là, en référence à ma phrase, c'est ça ce que je voulais dire. C'est-à-dire pourquoi nous avons toutes les questions à laquelle je réponds avec grand plaisir et sourire là aujourd'hui, mais les autres n'ont pas ces mêmes questions-là. Pourquoi?
Et d'ailleurs, comment Non, mais c'est vrai, on leur pose moins la question qu'aux figures de CNews.
Moi, je réponds à tout. Et chaîne d'opinion, qu'est-ce qu'une opinion aujourd'hui? Mais j'aimerais savoir, mais moi je n'entends que des opinions. CNews est une chaîne d'information. Moi, pendant les 2 heures, j'ai 2 journaux qui sont importants, qui sont faits par la rédaction. J'ai 4 points d'actualité, Midi News entre 12h et 14h. Je fournis de l'information. Moi-même, j'en fournis. Mes invités en fournissent. Les journalistes de la rédaction en fournissent. Moi, on répond parfaitement au cahier des charges d'une chaîne d'information.
Absolument. Par contre, mais pour faire la différence, il y a 4 chaînes d'info en France. La différence de CNews, c'est quoi ? Une chaîne plus éditorialisée que les autres, c'est ça ?
Je ne sais pas ce que c'est plus éditorialisée. Peut-être que certains journalistes, et j'en fais partie, on rentre davantage dans le débat, j'allais dire. Mais écoutez, c'est ma conception sur Europe 1, mais je vous rejoindrai ici même en tant que journaliste où j'irai un jour à France Télévisions. Je n'ai pas doute qu'un jour j'aurai une proposition.
Ah, justement, on peut en parler de France Télévisions.
Je ne vais pas changer, je ne vais pas changer ma manière d'être, ma personnalité. Bien j'interviens, sûr. D'ailleurs, on le voit, pour poser des questions, on est comme ça. C'est un engagement, mais ce n'est pas un engagement. Politique, c'est un engagement transpartisan. Ouais, je trouve que c'est bien que les téléspectateurs voient comment vous êtes.
Et de toute façon, ils ont le choix. Ils ont une télécommande, voilà. ils peuvent changer quand ils veulent.
Et on a vu votre sincérité. Votre question à Élise Lucet la semaine dernière dans l'émission de Léa Salamé. Comment vous avez vécu ce petit face-à-face
Moi, très bien.
On rappelle que vous lui avez demandé si un jour elle allait enquêter sur France Télévisions. Après tout, comme elle mène des enquêtes sur plein de grandes sociétés.
Moi, sur France Télévisions, je me sens chez moi. Vous savez pourquoi ? C'est le service public. Et le service public nous appartient tous. Donc à partir du moment où je me sens chez moi...
Il est financé par nos impôts, évidemment.
Oui, mais je le dis de manière... Et c'est très bien, mais à partir du moment où je suis chez moi, je trouve que certaines questions sont légitimes. Et donc je me suis comportée non pas en journaliste, mais en citoyenne. Et j'ai dit, est-ce qu'on pourrait voir ce qui se passe aussi à France Télévisions ? Non pas qu'il y ait des choses à découvrir qui sont cachées, mais peut-être voir si toutes les chaînes doivent être maintenues. C'est une vraie question. Est-ce que toutes ont... vous parlez des chaînes d'information, il y en a 4. Chaînes de services publics, il y en a plusieurs. Est-ce qu'il faut les maintenir ainsi ?
Et donc, France O a déjà été supprimée il y a 2 ans.
Ça aurait mérité un cache investigation avec les moyens formidables. On dispose de Mme Lucet, mais je suis sûre qu'elle y avait pensé avant que je ne propose la question.
Non, mais quand vous dites ça, vous savez très bien, Sonia, qu'elle le fera jamais.
Mais pourquoi ?
Non. Si, vous pensez qu'elle peut le faire ?
Écoutez, je suis sûre que c'est une femme qui relève le défi et une journaliste pugnace et courageuse.
Alors, on avait récemment interviewé Frédéric Taddeï, qui était à votre place ici, qui vient de rejoindre votre chaîne, notamment sur la question, peut-on inviter tout le monde sur un plateau de télévision ? Faut-il d'ailleurs inviter tout le monde et toutes les opinions sur un plateau de télévision ? La question s'est posée notamment avec Cyril Hanouna et des complotistes qui ont été sur le plateau TPMP récemment. Est-ce qu'on peut le faire ?
En tous les cas, il faut s'entourer de beaucoup de précautions. C'est-à-dire qu'il faut avoir en face véritablement des contradicteurs, des déconstructeurs dans ce cas-là, qui vont véritablement éplucher votre discours, votre argumentation. Tout peut se dire sur un plateau de télévision, si ce n'est pas évidemment des propos racistes et qui incitent à la haine, mais si on tombe dans un... J'allais dire dans un entre-deux, il faut qu'en face, vous ayez des gens solides, c'est-à-dire très solides, à la réputation
et qui connaissent ce dossier.
Donc oui, avec cette condition qui me semble vraiment essentielle, sine qua non pour moi.
Gérard Forêt, par exemple, chez Cyril Hanouna, beaucoup lui ont reproché, donner la parole à un complotiste plutôt avéré, qui tient des blogs, etc. On peut le faire aussi. C'est assez différent, évidemment.
Ah mais en face, il faut quelqu'un qui déconstruise ce discours-là ou qui tienne des propos. Écoutez, c'est pas si compliqué, tout simplement, parce qu'évidemment, je vois que ce sont des tests qui
prolifèrent. Je parle de responsabilité. Quand vous avez quelqu'un qui a un blog qui est vu par 2000 personnes et que vous le mettez dans un salon avec 2 millions de personnes qui regardent, évidemment, c'est différent.
Mais votre responsabilité pendant l'émission, c'est de faire en sorte que ce discours rencontre une contradiction, qui soit argumenté et qui soit porté de manière construite, tout simplement. Donc oui, avec cette condition qui me paraît, pour moi, impossible à éluder.
Incontournable.
Oui, et ça fait partie de la responsabilité.
Merci, Sonia Mabrouk. On passe à notre dernière rubrique, pour le meilleur et pour le pire. C'est comme dans un mariage, le meilleur, le pire. On fait juste un petit bilan en 2 mots comme ça. Est-ce que vous avez un meilleur souvenir de votre carrière ? Si vous en aviez un comme ça... qui somme de votre carrière de journaliste. Est-ce qu'il y en a un comme ça ?
Je vais vous citer j'ai bien aimé, c'est récent, c'était une interview avec ChatGPT-3.
Ouais.
Et j'avais fait ça comme
voilà. Sur Europe 1.
Sur Europe 1, il y a eu beaucoup de retours et je l'avais fait un petit peu sur le mode, non pas de la taquinerie, c'est quand même sérieux les interviews, mais j'ai découvert pas mal de choses de cette interviewée, de cet ami ChatGPT.
Une
petite pointe d'idéologie quand même.
Ouais.
Et donc, voilà, c'était, je trouve, assez cocasse. Alors maintenant, il y a un nouveau ChatGPT, 4.
Oui, c'est le 4, 4e.
Ouais.
Peut-être génération 4. Prochain invité.
On verra.
Et ouais. Le pire, très rapidement, peut-être un moment de solitude face à un invité. Vous recevez les politiques chaque matin. Pas toujours facile.
C'est un moment de solitude. Quelque chose, est-ce qu'il y a quelque chose un mauvais souvenir?
Je suis désolée, ça ne prête pas à sourire, mais peut-être en sortant d'une émission, parce que toujours j'ai les messages de ma maman qui me faisaient beaucoup de critiques, hein, mais vraiment des critiques. Et le jour où j'en ai pas eu, voilà, c'était, je crois, le pire jour, et ça le restera pour toujours, parce que j'en aurais plus.
Merci, Sonia Mabrouk. Merci de votre sincérité, de votre franchise. Merci d'avoir été là. Reconquérir le sacré, c'est aux éditions de l'Observatoire. Ce livre est sorti et on peut vous écouter évidemment tous les matins dans la matinale d'Europe 1 à 8h20 et CNews, la mi-journée, oui. Et le dimanche pour l'interview politique.